Oui, Seigneur Esprit Saint, verse ton onction sur nous, ton onction d'amour, de paix. Viens ouvrir nos cœurs pour nous réconcilier avec nous-mêmes, nous réconcilier avec les autres et avec Dieu. De la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12, à partir du verset 1. Pour ce qui est des dons spirituels, frères, je ne veux pas vous voir dans l'ignorance. Quand vous étiez païens, vous le savez, vous étiez entraînés irrésistiblement vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, personne parlant avec l'Esprit de Dieu ne dit anathème à Jésus. Et nul ne peut dire Jésus est Seigneur s'il n'est avec l'Esprit Saint. Il y a certes diversité de dons spirituels, mais c'est le même Esprit. Diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien commun. À l'un, c'est un discours de sagesse qui est donné par l'Esprit. À tel autre, un discours de science, selon le même Esprit. À un autre, la foi, dans le même Esprit. À tel autre, les dons de guérison, dans l'unique Esprit. À tel autre, la puissance d'opérer des miracles. À tel autre la prophétie, à tel autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à tel autre le don de les interpréter. Mais tout cela, c'est l'unique et même esprit qui l'opère, distribuant ses dons à chacun comme il l'entend. Voilà, donc c'est un texte un petit peu dense, mais je vais essayer de voir avec vous ce que nous pouvons retenir ce soir de ce que saint Paul écrit aux Corinthiens, une communauté qui vivait dans l'Esprit Saint, qui pratiquait abondamment les charismes. Les charismes, qui, ce sont des dons de Dieu dont nous allons parler aujourd'hui. Alors d'abord, saint Paul nous dit que la première chose que donne l'Esprit Saint, c'est de pouvoir confesser que Jésus est Seigneur. Et de pouvoir s'arracher aux idoles, ce qu'il appelle les idoles muettes. Qu'est-ce que c'est que les idoles muettes ? Eh bien, c'est dans notre vie tous les lieux où nous sommes esclaves de quelque chose. Ça peut être, pas pouvoir s'empêcher de regarder 3 heures son smartphone par jour. Ça peut être la télé, ça peut être la voyance, ça peut être l'argent, ça peut être le sexe, ça peut être plein de trucs, le commérage. Tout ça, c'est des idoles. Tant que Dieu n'est pas au centre de notre vie complètement, eh bien, on a besoin de mettre dans notre vie des choses, des absolus, même sans s'en rendre compte. Tout le monde met des absolus dans sa vie, ça s'appelle des idoles, quand ces absolus ne sont pas le vrai Dieu. Et donc, pour éliminer les idoles de nos vies, il faut avoir le vrai Dieu, parce que nous avons besoin d'un absolu. Si ce n'est pas le vrai Dieu, ça sera autre chose. Ça sera notre smartphone qui va nous consoler tout le temps, parce qu'on est angoissé, donc on va trouver son refuge dans le smartphone ou dans autre chose. Ça, c'est un phénomène auquel personne ne peut résister. Tout le monde, s'il n'a pas Dieu au centre de sa vie, va mettre autre chose. Et ce n'est qu'en mettant Dieu au centre de sa vie qu'on arrive progressivement à se libérer des esclavages de nos vies. Ça, ce n'est pas en 30 secondes, ça se fait progressivement grâce à l'Esprit. En confessant que Jésus est le Seigneur, c'est-à-dire qu'il est le maître de notre vie. Ce n'est pas juste une leçon de catéchisme qu'on récite, Jésus est Seigneur. Non, c'est une confession qu'on a vécue, on le sait parce qu'on l'a expérimenté à travers un événement de notre vie. Tout à l'heure, nous aurons le témoignage d'Emmanuel qui va nous raconter sa conversion. Eh bien, c'est comme une crêpe qui se retourne d'un coup, passe d'un état à un autre, et le Seigneur l'a pris complètement, et maintenant il confesse Jésus est Seigneur, et non seulement il le confesse, mais il le prie. Donc l'Esprit Saint opère cela, et seul lui peut opérer cela. Nous, on peut essayer de faire tous les efforts qu'on veut, et c'est bien, mais sans l'Esprit Saint, aucun effort ne produira du fruit. C'est pourquoi, pour obtenir cette grâce de prononcer, de dire Jésus est Seigneur, et qu'il soit vraiment le Seigneur de notre vie, la meilleure manière, c'est de supplier Dieu, de lui dire « Viens à mon aide, viens à mon secours, sauve-moi », de faire des actes d'humilité. C'est eux qui ouvrent la porte du ciel, c'est l'humilité qui ouvre la porte du ciel. Voilà pourquoi peut-être certains, en venant à cette prière des malades, ont peut-être eu des petits combats ou des personnes qui se font assez mal passer. Eh bien, à travers ça, le Seigneur vous fait grandir dans l'humilité, peut-être pour recevoir une grâce ce soir. Il y a plein de témoignages de gens qui ont eu des petites humiliations avant de venir ici ou dans cette église, et puis ils l'ont accepté, Et du coup, eh bien, le Seigneur est passé par cette porte d'humilité pour leur donner des grâces. Ensuite, Paul nous dit qu'il y a beaucoup de dons spirituels, des ministères et des opérations, tout ça veut dire. Mais c'est un seul esprit. Ça veut dire ce que le pape disait à la dernière Pentecôte, l'année dernière, il parlait de l'unité dans la diversité dans l'unité. Dans l'Église, si vous allez d'une paroisse à une autre, il peut y avoir des choses radicalement différentes, mais c'est le même esprit dans les deux paroisses. Quand vous allez d'une spiritualité à une autre, ça peut être radicalement différent. Il faut que ce soit le même Esprit Saint. Il y a les ministères, le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, aussi les laïcs peuvent avoir des ministères. Ministères, ça veut dire des services dans l'Église. Chacun peut avoir des ministères très variés, des ministères parfois très humbles, très cachés, mais c'est le même esprit qui agit en tout cela. Et donc, ce que Paul nous demande de vivre dans l'Église, c'est l'unité dans la diversité. C'est quelque chose qui est difficile à vivre pour tous les humains. On a tendance à être bien avec ceux qui nous ressemblent et avoir du mal avec ceux qui ne nous ressemblent pas. Eh bien, Dieu veut cette diversité parce que cette diversité est un signe de sa richesse infinie. Il ne voulait pas qu'on soit tous des clones. Hein, aujourd'hui, parfois, on parle de faire des clones. Bien, c'est exactement le contraire de ce que Dieu veut. Il veut qu'on soit différents, divers les uns des autres, parce que chacun, on est un petit éclat de la gloire de Dieu. Chacun de nous allons refléter un petit éclat de la gloire de Dieu, et personne à lui seul ne peut refléter toute la gloire de Dieu. Et c'est par l'assemblage de ces éclats, comme les vitraux d'une cathédrale, que ça devient joli, ça devient magnifique. Dans l'Église, il nous faut travailler à cette unité dans la diversité. Peut-être que certains ne se retrouvent pas dans le renouveau charismatique, ou je ne sais pas quoi, très bien. Peu importe, il faut vivre cette unité, même si chacun a ses sensibilités personnelles. Ensuite, Paul nous parle des manifestations de l'Esprit Saint, donc les charismes. Ces charismes sont donnés, nous dit Paul, en vue du bien commun. Tous ceux qui sont baptisés peuvent demander au Seigneur des charismes, sont appelés à recevoir des charismes. Tout le monde, pas besoin d'être un intellectuel, d'avoir fait des études, le pape François l'a rappelé récemment, tout le monde est appelé à recevoir des charismes. Mais les charismes, ce n'est pas pour avoir un pouvoir qu'on exerce. Malheureusement, il arrive parfois que ceux qui reçoivent des charismes plus extraordinaires s'en servent comme un pouvoir. C'est pour ça que le Seigneur, il nous humilie, il nous ramène à être dans l'humilité, il nous rappelle qu'on est pauvre. Le charisme, c'est pour se mettre au service des autres, pas pour s'aider soi-même, pour se mettre au service des autres. Pour cela qu'à la fin de la prière des malades, je m'enfuis. Je ne veux pas qu'on fasse de moi une star ou une idole. Si vous faites de moi une star ou une idole, vous n'êtes pas dans l'Esprit Saint. Vous êtes exactement le contraire de ce que Dieu vous demande de faire. Considérez que je suis au moins aussi pauvre que vous. Et dans cette assemblée, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup, beaucoup plus saints que moi. Ça, je n'ai pas de peine à le penser. Donc, les charismes, c'est pour le bien commun. C'est un service. Dieu nous donne une grâce qui n'est pas méritée. Pas de mérite dans le charisme. Mais c'est pour le bien commun, c'est pour se mettre au service des autres. Si vous voulez avoir des charismes, demandez d'abord la grâce de la charité, de l'amour, l'amour des autres. Et ensuite, demandez des charismes pour aimer les autres, pour les servir. Ne demandez pas forcément des charismes d'abord extraordinaires, ce qu'on appelle les charismes extraordinaires, dont je parlais tout à l'heure. Mais demandez des charismes simples, ordinaires, à travers lesquels l'amour va passer. Pour l'un, ça va être le charisme de service, le charisme d'encourager ses frères par la foi, le charisme d'écouter, le charisme d'enseigner, de faire du catéchisme, le charisme de louer. Le nombre des charismes n'est pas limité. Les différents papes de Jean-Paul II, pape François l'ont dit dans leurs homélies ou dans leurs enseignements sur les charismes. Il y a une multitude de charismes divers que le Seigneur veut nous donner à condition que nous aimions les autres et que nous acceptions d'annoncer le Seigneur. Les charismes sont là pour manifester l'Esprit Saint. Il y a aussi les charismes extraordinaires qui sont pratiqués dans cette assemblée, la grâce d'annoncer des guérisons, mais c'est toujours le Seigneur qui guérit, c'est pas la personne qui a les charismes qui guérit, c'est toujours le Seigneur qui guérit. Ces charismes extraordinaires sont là aussi pour manifester la présence de l'Esprit Saint parmi nous. Si nous annonçons des paroles de guérison, c'est pour que l'Esprit Saint soit manifesté parmi vous, à travers les témoignages qui attestent que ces paroles sont vraies. Et là, on voit que Dieu est présent et qu'il nous parle. Parce qu'il y avait un témoignage d'une personne il y a quelques semaines qui disait, à travers la prière des malades, il y a eu un message où Dieu m'a parlé personnellement. Les mots de ce message reprenaient exactement ma prière d'il y a quelques jours. Donc elle s'est complètement reconnue dans cette parole. Et découvrir que Dieu nous parle personnellement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Un charisme ne se reçoit pas de père en fils. Un charisme n'est pas un héritage familial. Les dons de guérison qui se reçoivent de père en fils ne sont pas des charismes. Par exemple, dans les familles, il y a des coupeurs de feu, des choses comme ça. C'est exactement le contraire des charismes. Peut-être qu'il y en a qui sont dans cette assemblée et je m'excuse par rapport à eux. Moi, je suis totalement contre cela, parce qu'un coupeur de feu va vous guérir de votre brûlure, mais il y a autre chose, il va ouvrir une autre porte où les démons vont venir vous embêter sur un autre sujet. Le diable aussi peut faire des guérisons, il faut le savoir. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller voir les guérisseurs, mais demander au Seigneur, dans la prière, des grâces de guérison, ne pas aller voir des guérisseurs où il y a des dons qui se transmettent de père en fils et qui ne sont pas des dons de l'Esprit-Saint. Les dons de l'Esprit-Saint sont donnés à une personne précise en vue de l'évangélisation. Personne ne peut s'approprier ces dons. Ces dons peuvent disparaître si Dieu le veut. Dieu peut très bien retirer à une personne un don. Donc c'est important de discerner, il y a le charisme du discernement, de discerner l'Esprit-Saint. Où est l'Esprit-Saint? Où est-ce que l'Esprit-Saint veut m'envoyer? C'est important aussi d'avoir des gens qui ont des grâces de discernement. Peut-être vous pourrez découvrir dans les lieux où vous êtes, les assemblées, les églises, d'autres laïcs ou vous-même qui ont une grâce de discernement parce qu'ils ont une expérience suffisante, ils ont vécu des choses, parfois ils ont fait des erreurs et donc ils connaissent les mauvais chemins et ils connaissent les bons chemins. Eh bien, quand vous rencontrez une personne qui a une grâce de discernement, c'est un véritable trésor parce que ce charisme de discernement est aussi un charisme rare dans l'église. C'est aussi un charisme rare. Et ce qui manque très souvent, c'est précisément cette grâce de discernement, y compris chez nous les prêtres. Parce que parfois, il peut y avoir des prêtres qui n'ont pas un bon discernement, qui vont vous raconter n'importe quoi parce qu'ils n'ont pas un bon discernement. Donc demandez le discernement pour vous-même. Je voulais encore vous dire que même s'il y a des personnes qui ont des charismes de guérison, eh bien le Seigneur nous appelle tous à prier les uns pour les autres. Et rien ne vous empêche de prier pour quelqu'un de votre famille ou avec elle pour demander des guérisons. Et même sans avoir forcément de charisme particulier, le Seigneur vous accordera des guérisons. C'est ce qui est dit à la finale de Saint Matthieu. Ceux qui croient, eh bien, ils verront des signes et il y aura des guérisons pour tous ceux qui croient. Donc si vous croyez, le Seigneur ne guérit pas tous ceux pour qui vous prierez, mais vous verrez des signes du Seigneur, vous verrez que le Seigneur vous exaucera vous aussi. Il n'y a pas besoin d'être un super génie pour ça, il suffit juste d'avoir de la charité et de l'humilité dans son cœur. Voilà, alors n'hésitez pas à demander au Seigneur des dons spirituels, des charismes. Demandez d'abord la charité, et la première expression de la charité, nous dit saint Paul, au chapitre 13, c'est la patience et l'humilité. La patience et l'humilité, c'est la première expression de la charité. Voilà, maintenant je vais demander à Emmanuel de venir nous donner son témoignage.
Bonsoir. Je m'appelle Emmanuel, j'ai 50 ans, je suis marié, j'ai deux enfants, et j'ai souhaité témoigner ce soir pour vous faire partager un petit peu de ce que je vis depuis maintenant un peu plus de deux ans que je fréquente la prière pour les malades. J'ai découvert cette prière en tombant, on va dire, par hasard, sur la vidéo disponible en ligne qui présente l'ensemble de cette prière d'une façon assez complète. Et ça m'a interpellé. Je connaissais Lourdes comme tout le monde, mais je ne connaissais pas du tout Saint-Nicolas des Champs. Et comme il se trouve que mon lieu de travail se trouve à 10 minutes en voiture, un autre au hasard, j'y suis allé le jeudi suivant. Et j'ai été vraiment conquis par cette prière, non seulement par les merveilles que le Seigneur fait, mais par la ferveur qui se dégage de cette prière. Et j'ai décidé d'y aller le plus souvent possible. Donc j'y suis allé avec des prières, en priant pour d'autres personnes, pour intercéder, mais aussi pour moi, parce qu'à l'époque, je priais très peu. Je priais, on va dire, un vague de Notre Père et un Je vous salue Marie le soir avant de m'endormir, quand j'y pensais, autant dire, bon, pas toujours. Donc je disais à cette prière, « Seigneur, mes prières sont faibles, aide-moi, j'ai besoin de ton aide. » Je sais que tu es là, parmi nous, dans le Saint-Sacrement, je le sais, je n'en doute pas, fais-moi un signe, donne-moi quelque chose, aide-moi, donne-moi quelque chose pour me motiver. Et le 10 mars 2016, seulement à la troisième participation, j'ai entendu une parole de connaissance dire « Une personne dans l'Assemblée n'arrive pas à pardonner, pas à prier, à pardonner, parce que c'est trop douloureux, le Seigneur va apaiser cette personne, comme ça elle pourra pardonner tranquillement. » En entendant ces paroles, j'ai ressenti un coup au cœur, comme quand on reçoit une violente émotion brutale. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, très vite. J'ai pris mon pouls en me disant, mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ça? Mes jambes se sont mises à trembler et j'ai vu le Saint-Sacrement passer à ma hauteur dans l'allée. Et à l'instant d'après, j'ai ressenti un immense bien-être intérieur. Et là, j'ai compris que le Seigneur m'avait accordé sa grâce. Mais une grâce de pardon, pas une grâce de prière comme je lui demandais, parce que le Seigneur ne nous donne pas toujours ce que nous lui demandons. Parce que le Seigneur, qui nous connaît mieux que nous nous connaissons nous-mêmes, savait que j'étais très rancunier depuis toujours, que je ruminais beaucoup, et que ça m'avait même conduit parfois à commettre des actes de vengeance. Le Seigneur savait tout ça, et il a décidé de me retirer tout ça. Et ça, c'était un immense cadeau du Seigneur. Et j'ai d'ailleurs, accessoirement, remarqué quelque chose. Pour moi, c'était le début, et j'ai remarqué ça. C'est la concomitance entre mes ressentis, la parole de connaissance et le passage du Saint-Sacrement. Les trois choses se sont faites en même temps. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. On va dire deux semaines après, à la même époque, à une autre prière, j'étais posté au pilier qui est là. Quelques minutes avant que la prière ne commence, donc j'attendais au pied du pilier, j'entends une voix féminine me dire, juste derrière moi, « Vous devriez aller voir la Vierge Marie là-bas, elle vous appelle. » Et là-bas, c'était à cet endroit-là, ici, à la statue de Notre-Dame de Lourdes. Alors je me retourne et je vois une jeune religieuse, toute jeune, elle devait avoir une vingtaine d'années, noire, très belle. Je me souviens de la beauté de son visage, j'étais frappé par la beauté de son visage et par la finesse de ses traits. Et je la regarde, étonnée évidemment, et elle me répète, « Allez voir la Vierge Marie là-bas, je sais ce que je dis, elle vous appelle. » Alors j'ai pas le réflexe sur le moment de lui demander pourquoi elle dit ça, etc. Ma première idée, c'était qu'elle voulait se débarrasser de moi pour avoir un peu plus de place. Bon, et puis je me suis dit quand même, on n'est pas dans le métro aux heures de pointe, on est dans une église et c'est une religieuse, alors j'y suis allé. Sans rien lui demander, j'y suis allé, j'ai passé la prière au pied de la Vierge Marie. Je lui ai adressé quelques prières en particulier. Et puis il ne s'est rien passé d'autre de particulier ce soir-là me concernant. Simplement aujourd'hui, deux ans après, moi qui priais si peu, puisque je demandais au départ la grâce du Seigneur pour m'aider à prier, eh bien aujourd'hui je prie tous les jours et sans difficulté le rosaire de Marie, les quatre chapelets. Parce qu'en fait, dans la foulée de cet appel, parce que là je pense qu'on peut vraiment parler d'appel, j'ai ressenti le besoin de prier avec un objet de prière dans les mains. Alors j'ai acheté un chapelet ici même, sans rien savoir du chapelet, sans rien savoir du tout. Et puis, un objet de prière, il faut le faire bénir. Donc j'ai demandé au prêtre de ma paroisse de le faire, ce qu'il a fait bien évidemment. Simplement en le faisant, il a prononcé une phrase clé, toute simple, mais déterminante pour la suite. Il a dit, ah oui, c'est une bonne idée de faire appel à la Vierge Marie. Donc suite à ça, je suis allé sur internet pour me renseigner sur le chapelet, puisque ça avait un lien avec la Vierge Marie. Et c'est comme ça que j'ai compris comment le prier, ce que ça signifiait, et que j'ai découvert l'existence du rosaire. Et j'ai commencé, dans la foulée, à prier le chapelet. Et j'ai ressenti le désir de prier également sur mon lieu de travail. Donc, à la pause de midi, j'ai décidé de trouver un coin isolé, en l'occurrence une petite plateforme au parking, à l'escalier de secours du parking souterrain. Au moins un, il y a une petite plateforme très pratique, isolée, bien isolée, et j'ai commencé à prier le chapelet à la pause de midi. Et comme ça, ça a commencé très rapidement, j'ai souhaité prier le rosaire. C'était lourd, ça fait deux heures tous les jours, c'est beaucoup, mais je me sentais porté par ça et j'avais envie de le faire. Ça nous emmène en juin, on va dire juin 2016, et à partir de juillet 2016, j'ai commencé à ressentir des phénomènes d'ordre mystique, c'est-à-dire des ressentis d'amour de la part du Seigneur. Je ressentais dans mon cœur des ressentis d'amour, c'était extérieur, je sentais. C'est difficile à décrire, les phénomènes mystiques, c'est toujours compliqué à décrire, mais c'était vraiment des ressentis d'amour. Le Seigneur se manifestait, et moi, ça me donnait vraiment envie de prier avec encore plus d'amour et encore plus de ferveur pour lui rendre ce qu'il était en train de me donner. Et vers le 11 ou 12 juillet, donc je termine le rosaire le soir, parce que je prie également le soir, obligé. Et là, je sentais que c'était un peu plus fort que d'habitude. Et en me couchant, je ressens comme un flux au niveau du cœur, comme un flux. Et je me couche et j'entre dans un cœur à cœur avec le Seigneur. Et c'était un moment vraiment magnifique. Et je lui parle, et je me sentais vraiment comme un petit garçon dans les bras de son père. C'était vraiment ça que je ressentais. Alors, à un moment donné, ça a été arrêté brutalement. Bon, je n'en donne pas plus de détails. Et j'ai éprouvé le besoin de me faire confirmer que l'origine de cette venue, parce que c'était une visite nocturne, on peut dire. Et donc, sur les conseils d'un prêtre, j'ai dit à l'Eucharistie suivante, « Seigneur, si c'est toi qui es venu il y a quelques jours, fais-moi un signe. » Et quelques jours après, nouvelle visite nocturne. Le Seigneur est venu de nouveau me visiter. Et là, j'ai vraiment eu le sentiment, vraiment, je ne l'ai pas vu, ce n'était pas une apparition, c'était que du ressenti, mais j'avais vraiment le sentiment d'un être qui irradie d'amour. Ça se sentait. Ça se sentait. Là aussi, c'est difficile à décrire, mais vraiment, c'était un être radieux, un être qui irradie d'amour, je ne peux pas dire autre chose. Et là, pendant au moins une demi-heure, c'était du cœur à cœur pur, de la prière, des mots d'amour, j'étais en pleurs. Ça a même impacté ma femme, indirectement, et moi, c'est uniquement le lendemain matin que j'ai récupéré un rythme cardiaque normal, on va dire. Donc pendant tout l'été 2016, là j'ai prié quasi quotidiennement le rosaire, même pendant les vacances. Et ce jusqu'au 7 octobre, date de la fête du rosaire, que j'ai prié à Notre-Dame des Victoires. Après, il y a eu un petit phénomène de décrochage psychologique quand même, parce que ça devenait un peu lourd psychologiquement quand même, c'est 2 heures par jour, c'est beaucoup. Et là, je me suis dit intérieurement que bon, j'allais peut-être lever le pied un petit peu, sauf que le Seigneur ne l'a pas entendu de cette oreille. Donc il m'a obligé, on va dire, à continuer, peut-être en m'organisant un peu différemment, parce que prier le soir, ça commençait à devenir un peu pesant au plan familial. Donc, à l'automne 2016, j'ai commencé à avoir des ressentis d'amour aussi, mais sur mon lieu de travail. Ce qui m'a poussé à prier non seulement à la pause de midi, mais le soir, avant de repartir, avant de reprendre ma voiture pour rentrer chez moi, j'ai eu envie de retourner à ma plateforme ou à l'escalier souterrain et de nouveau de prier le chapelet. Et ce qui a commencé à ce moment-là et qui s'est produit de plus en plus souvent, c'est à la fin du chapelet de ressentir une sorte de frisson enveloppant qui dure 2-3 secondes, qui est vraiment une manifestation du Seigneur et qui me pousse, une fois que le chapelet est terminé, à continuer à prier, mais là vraiment dans du pur cœur à cœur. Ça pouvait durer 15, 20, 30 minutes, du pur cœur à cœur, et là c'est des mots d'amour. Je pouvais pendant une demi-heure dire « Seigneur, je t'aime ». Juste ça, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime. Et j'arrivais pas à arrêter, quoi. Il fallait que je me fasse violence à la fin pour arrêter, parce que ça pouvait durer comme ça très, très, très longtemps. Ça a duré comme ça pendant de l'automne 2016 jusqu'à pendant toute l'année 2017. Je n'exagère pas en disant que des manifestations de ce type, j'en ai eu une centaine, au moins une centaine de visites du Seigneur comme ça et de moments d'amour. Avec comme point d'orgue le 27 février 2017, où là j'ai reçu par le Seigneur la confirmation de la grâce de prière, donc qui est devenue pour moi, de mon interprétation, un charisme de prière, où j'ai reçu physiquement l'Esprit Saint. C'est-à-dire que c'est pas une langue de feu qui m'est venue, mais c'est une grande vibration. Tout d'un coup, il y a une grande vibration qui m'est venue, comme un courant électrique qui m'a traversé le corps, crescendo d'abord, décrescendo ensuite, ça a duré une dizaine de minutes. C'est comme un courant électrique. Et j'ai ressenti après ça que je pouvais prier d'un jour à l'autre sans éprouver plus aucune lassitude. Plus aucune. Et donc j'ai prié de façon régulière, vraiment, jour après jour, le chapelet, sans arrêt, tous les jours. Et le Seigneur m'a poussé à aller encore plus loin. Par ses ressentis d'amour, il m'a poussé à faire une chose que je n'osais pas faire, c'est de prier en conduisant dans Paris, parce que j'habite à Asnières, mais là où je travaille, c'est dans Paris, à côté d'ici. Donc, je conduis dans Paris. Je n'osais pas prier en conduisant dans Paris. Le Seigneur m'a poussé à le faire. Par ses ressentis d'amour, il m'a forcé, on va dire, à répondre. Je me sentais obligé de répondre. Et donc, un soir, j'ai ressorti mon chapelet en conduisant et j'ai recommencé donc à prier le chapelet. Et je me suis rendu compte par la force des choses que je pouvais prier en conduisant dans Paris. Ça n'était pas dangereux, en tout cas pour moi. Et du coup, en prenant le trajet domicile-travail, une heure aller, une heure retour, plus la pause midi, plus le cœur à cœur du soir, ça fait 3 heures facilement. Donc aujourd'hui, je prie 3 à 4 heures par jour. Moi qui priais presque pas, aujourd'hui je prie 3 à 4 heures par jour. Et je terminerai avec juste deux points pour terminer. Il y a peu de temps, mars et avril, le Seigneur m'a également donné la confirmation de la grâce de pardon. Il m'avait donné une grâce de pardon initialement, que je ne lui avais pas demandé. Il l'a confirmé, ce qui fait qu'aujourd'hui, Ce qui fait qu'aujourd'hui, je prie tous les jours le chapelet de la miséricorde divine en plus du rosaire. C'est-à-dire que les personnes avec qui ont pu me faire du mal, ou avec qui j'ai pu être en conflit, ou à qui peuvent m'en vouloir, ou à qui j'ai pu en vouloir, des personnes contre qui auparavant j'avais tendance à vouloir me venger, aujourd'hui je prie pour elles le chapelet de la miséricorde divine, pour leur demander au Seigneur qu'elles reçoivent la même grâce que j'ai reçue, la même chance de se convertir. Et un tout dernier point, pour souligner l'importance de prier Marie, il faut prier Marie, j'ai appris tout récemment, il y a quelques semaines, par une personne dotée du charisme de connaissance aussi, pas dans cette église, mais à la communauté des frères de Saint-Jean à Troussure, dans l'Oise, que ce sont les prières de ma grand-mère qui ont rendu tout cela possible, en fait. Ma grand-mère était très proche de Marie, elle la priait souvent, beaucoup, et ce sont ces prières d'intercession qui ont fait que la Vierge Marie m'a amené à son fils. Voilà. Donc tout ça pour dire, prions Marie. C'est vraiment important, il faut prier Marie. Voilà. Donc, pour ce soir, je ne souhaite qu'une chose, je ne demande au Seigneur qu'une chose, c'est qu'il distribue en abondance les merveilles spirituelles qu'il m'a données. Voilà, merci Seigneur Jésus, merci Vierge Marie. Amen.
Alors, je me réjouis de ce témoignage d'Emmanuel ce soir. Les jeudis, en général, on donne des témoignages de guérison, mais il y a aussi des conversions. Une conversion, c'est encore plus fort qu'une guérison, parce que c'est une guérison du cœur qui nous ouvre à la vie éternelle. Évidemment, Emmanuel a reçu des grâces très fortes pour pouvoir prier autant. Tout le monde n'a pas reçu toutes ces grâces. Le but, ce n'est pas que vous arriviez à faire autant que lui, ce n'est pas ça le but. Mais c'est que comme lui, chacun de nous, on demande au Seigneur l'Esprit Saint, puis l'Esprit Saint vous conduira là où il veut. Et s'il vous demande de faire quelque chose, il vous donnera la grâce de le faire. Même si c'est quelque chose d'exceptionnel, eh bien vous recevrez une grâce exceptionnelle pour y arriver, comme Emmanuel a reçu des grâces exceptionnelles. Ouvrons-nous notre cœur, demandons-lui de répandre sur nous son esprit.